Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour et bienvenue dans Mégaphone. Aujourd'hui, une émission autour de la 20e édition du festival Culture Barbare qui se tient du 24 au 26 novembre. Nous serons avec Chloé Lebaille, responsable du collectif Culture Barbare, puis avec Mado qui s'occupe d'un club, le Macadam, à Nantes. Nous accueillons maintenant Chloé Lebaille, directrice du collectif Culture Barbare, Fédération nationale des cafés et clubs culture. Bonjour Chloé Lebaille.
Bonjour.
Alors vous êtes là parce qu'il y a une grosse actualité, c'est la 20e édition du festival Barbare du 24 au 26 novembre.
Complètement, la 20e édition dans 60 villes françaises, dans plus de 200 cafés et clubs culture et avec plus de 600 concerts, spectacles, expositions pour tous les publics.
Quand on dit café culture, ce sont des troquets mais aussi des clubs de nuit.
Voilà, ce sont des bistrots, des bars qui, au-delà d'accueillir du public pour boire un coup hein, ou un petit café, ils organisent aussi des spectacles, des concerts et également donc des clubs. Si je parle des clubs nantais, c'est le Warehouse et le Macadam qui vont donc proposer aussi des événements, des concerts, des spectacles, mais plutôt en deuxième partie de nuit, c'est-à-dire à partir de minuit jusqu'à 7h du matin.
Vous vous revendiquez maintenant comme l'événement culturel le plus important aux côtés de la fête de la musique ?
Oui, complètement, parce que si je prends Nantes, vous avez plus d'une centaine de lieux qui vont participer au Festival Culture Barbare, donc c'est plus de 300 concerts sur 3 jours, donc on estime que c'est assez important. On va faire jouer 1000 artistes, donc en termes de chiffres, c'est sûr qu'en tout cas, il y a de la proposition pour tout le monde.
Le Festival Barbare, c'est la partie émergée de l'iceberg. En l'occurrence, il y a un travail à l'année du collectif Culture Barbare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui regroupe ce collectif et quel est son objet ?
Oui, alors donc nous sommes une association où sont adhérents donc des responsables, des patrons et patronnes de cafés, culture et de clubs. Et l'idée, c'est de faire parler de nos lieux et surtout donc de nous revendiquer comme des acteurs culturels à part entière. Si nos lieux n'étaient pas ouverts et n'organisaient pas de concerts, ce serait difficile pour les artistes amateurs, ce serait aussi difficile pour les artistes professionnels, parce qu'avant d'aller jouer à Stéréolux ou au Zénith ou dans un festival, vous essuyez, comme on dit chez nous, beaucoup de comptoirs, beaucoup de scènes, des cafés, et au-delà que ça soit un plaisir, c'est surtout voilà votre première scène, c'est les scènes tremplins pour les artistes. Donc on revendique d'être ceci, et du coup le collectif Culture Barbare travaille au quotidien donc avec la mairie, avec la préfecture, avec aussi tout un ensemble d'acteurs pour que ces lieux puissent organiser ces concerts.
Combien de lieux adhèrent au collectif Culture Barbare ?
Alors sur Nantes, on est à 120, un peu plus de 120. Sur l'agglo, voilà, encore plus. Donc il y a 80% des lieux donc adhérents de Culture Barbare qui font le festival.
Ce que vous défendez, c'est aussi le droit à la fête. Est-ce que ce droit aujourd'hui est remis en question ou plus menacé qu'il ne l'a été par le passé ?
Il a toujours été, je pense, remis en question parce que, en tout cas, dans la conscience un peu, parfois, on assimile fête à des choses qui peuvent faire peur, des débordements, des comportements inappropriés, voilà, des questions de sécurité, délinquance. Donc, du coup, ce droit, il est remis en question, je pense, éternellement, et alors qu'il doit pourtant être un acquis, parce que la fête, c'est constitutif, en tout cas, des personnalités de toutes les personnes, qu'on soit jeune ou moins jeune. On voit que c'est des moments importants dans la vie pour aussi évacuer, en tout cas, et permettre d'être serein, en plus, dans chacun, dans sa vie personnelle.
Oui, et pour autant, ce droit à la fête doit cohabiter avec celui des habitants, un droit à vivre dans une certaine tranquillité. Dans votre communiqué de presse au niveau du collectif Culture Barbare, vous parlez d'une inflation post-confinement des plaintes des habitants. Qu'est-ce qui a changé ces deux dernières années ?
Alors, une inflation en termes de ressenti, notamment dans des grandes villes et des villes comme Nantes, où il y a eu donc le confinement, où les habitants se sont habitués à une certaine tranquillité et un certain silence, et aussi des nouveaux arrivants qui sont arrivés après le Covid, qui quittaient les villes encore plus grandes comme Paris par exemple, et pensaient qu'en venant dans des villes moyennes, on allait être sur des villes plus tranquilles, en tout cas où il y a moins d'activité, mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Donc on a été un peu pris entre ces injonctions qui sont différentes, en tout cas entre ce droit qui est un droit aussi à la tranquillité et ce droit à la fête par notamment les clients qui fréquentent nos lieux, donc ça peut créer des tensions. Donc c'est vrai qu'il y en a un peu plus, en tout cas c'est le ressenti qu'on a, mais on arrive à régler ces situations de manière individuelle dans le dialogue, donc il n'y a pas plus de plaintes non plus.
Donc ça passe par des actions de médiation. Au niveau du collectif Culture Barbare, sur cet équilibre entre droit à la fête et droit à la tranquillité, est-ce que vous avez des revendications ou des propositions spécifiques ?
Oui, pour nous, la première proposition, c'est le dialogue. C'est tout de suite qu'il y ait un échange entre les responsables des lieux et les riverains pour voir ce qui est possible, parce que d'expérience et de plus de 20 ans d'expérience du collectif Culture Barbare maintenant, on voit bien que des fois c'est juste un souci de double vitrage ou par exemple le bruit des chaises qui sont rentrées le soir lorsque les responsables de lieu rangent leur terrasse, il suffit de mettre des patins en dessous les chaises ou en dessous les tables. En fait on essaye de trouver des astuces un petit peu pour réduire les bruits qui peuvent être assez dérangeants pour une partie de la population qui souhaite dormir à ce moment-là. Donc pour nous, c'est le dialogue, c'est l'échange avec le riverain, mais aussi avec les pouvoirs publics, et en l'occurrence avec la ville de Nantes, la police municipale et également les forces de l'ordre au niveau de la préfecture.
Un autre élément qui fragilise les cafés culture, c'est la hausse de l'immobilier et des loyers.
Oui, ça c'est les cafés, mais je pense que c'est de manière globale pour tout un ensemble de professions, mais en tout cas nous ne sommes pas épargnés par cette inflation aussi du coût de l'immobilier qui fait que c'est de plus en plus compliqué d'ouvrir un lieu, avoir une économie, en tout cas un modèle qui tienne la route pour payer des loyers qui sont toujours assez conséquents. Et notamment lorsqu'on est dans des immeubles aussi qui sont un peu classés par exemple, il faut aussi travailler sur cette remise aux normes, ces isolations, et on voit bien aujourd'hui que la tendance est plutôt à l'inflation qu'autre chose. Après, c'est des soucis sur lesquels on n'est pas trop confronté à Nantes. On va plus avoir ces soucis-là à Paris, mais à Nantes, on arrive à faire ça en bonne intelligence avec les copros ou les riverains.
Au final, comment se portent les cafés culture aujourd'hui ? Y a-t-il autant de troquets qu'il y a 10 ans ? Quelle est la tendance en national et à Nantes, en Loire-Atlantique ?
Non, il y en a beaucoup moins. C'est un mouvement qui est en tout cas de diminution des cafés qui existent notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. On en revendiquait 500 000 au sortir de juste après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui on est à peine à 30 000. Donc si vous avez largement plus de 37 000 communes en France, donc il y a des villes où il n'y a plus de bars, et alors ce sont des lieux importants pour se retrouver. Donc on est sur cette tendance-là. Après, sur la situation de la fréquentation des lieux, donc depuis le Covid où la grande majeure partie des lieux ont été fermés, depuis la rentrée, depuis même cet été, suivant là où on habite, on habite en, près de la mer ou à Nantes. Voilà, enfin, la reprise a été différente, mais là, en tout cas, si je prends Nantes depuis septembre, les lieux font le plein, malgré les crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, qui sont notamment la crise de l'inflation, où voilà, ça devient aussi très compliqué en termes de pouvoir d'achat et pour les clients et nous au niveau de nos modèles économiques avec avec les fournisseurs. Mais en tout cas, la reprise est là et on sent que chacun et chacune, en tout cas la population, a envie de fréquenter ces lieux, être dans ces lieux et passer des moments exceptionnels.
Pour avant de revenir et de finir par la programmation de ce 20e festival Barbare, y a-t-il justement du côté du collectif, une fois encore en national, là davantage des revendications ou des choses qui permettraient de soutenir ces établissements?
Nous, c'est tout. La revendication première, c'est d'être reconnus comme des lieux de culture et des lieux sociaux à part entière, et pas comme être assimilés comme ça a été il y a plus d'une vingtaine d'années. Les cafés étaient seulement assimilés à des lieux d'alcool et de débauche. Donc, on a plutôt envie qu'on soit sur ce côté de construction du lien social et d'acteurs culturels. Donc, la revendication, c'est celle-là. Et c'est d'être dans un dialogue permanent avec les pouvoirs publics. Nous sommes aussi des citoyens. Nous sommes des acteurs donc politiques avec un grand P de la vie des villes. On participe à la construction. On participe à la construction des rapports sociaux. Et voilà, c'est ça nos revendications, c'est d'être... d'être connu et aussi qu'on nous écoute lorsqu'on porte des propositions en termes, par exemple, de vie nocturne à Nantes, en termes d'aménagement de l'espace public aussi à Nantes, en termes d'aménagement sur les différents îlots de proximité, un centre-ville qui s'est complètement étendu. Enfin voilà, juste qu'on soit écouté en fait sur ce que notre vision en fait du développement des villes et de la ville de Nantes.
À Nantes, pour le coup, il y a pas mal de dialogues. Vous avez été écouté sur la piétonnisation de plusieurs rues dans le centre pour pouvoir laisser de la place à la culture, à la fête, au troquet?
Oui, complètement. C'était une des propositions que nous avions fait à Madame Johanna Roland suite à la crise Covid et à voir comment on faisait en sorte que la vie reprenne. Et on voit l'importance qu'ont les Nantais de leur quartier, de la proximité. Donc piétoniser ces rues, c'était aussi une façon donc déjà de se réapproprier l'espace public alors qu'on avait été toutes et tous enfermés pendant plusieurs mois. Et puis on voit que grâce à cette piétonisation, on peut aussi développer d'autres initiatives culturelles notamment. Et puis au-delà de ça, enfin voilà, être vraiment libre dehors aussi, pas de contraintes avec la voiture, etc. Donc oui, c'est des choses qu'on a pu faire, comme on a pu proposer en son temps le Conseil de la Nuit, qui existe aujourd'hui à Nantes, ou encore des espaces de régulation avec les services de la tranquillité publique.
Ce Conseil de la Nuit, qu'est-ce que vous y faites ?
Aujourd'hui, on échange en tout cas sur ce qui peut se passer la nuit à Nantes. Et c'était un de nos premiers objectifs, c'était aussi d'être acteur de la politique publique menée par la majorité municipale, mais également qu'il soit à l'écoute de nos propositions et qu'on sorte aussi de vie nocturne et sécurité et qu'on puisse travailler sur d'autres sujets que ceux-là, même si ceux-là aujourd'hui sont au cœur de nos échanges.
Un petit mot maintenant, Chloé Lebaille. Je rappelle que vous êtes directrice du collectif Culture Barbare. Sur cette 20e édition du festival à Nantes et en Loire-Atlantique, y a-t-il une tonalité particulière? On est essentiellement sur de la musique, des concerts en tout style?
Oui, on est fortement sur de la musique, mais il y a également d'autres cultures qui vont exister dans les lieux. Je pense au stand-up par exemple. Je pense aussi à des jeux. Il y a beaucoup de quiz, quiz musicaux, des bingos. Il y a aussi des spectacles pour enfants. Donc plusieurs types de cultures, mais majoritairement du concert. C'est l'âme du Festival Culture Barbare.
Et pour retrouver la programmation, ça se passe sur Internet,
votre
site?
bar-avec-un-s.com, où vous aurez l'ensemble, donc en Loire-Atlantique, des 342 programmations qui se passent dans 126 lieux.
toute dernière question. Est-ce que vous avez, vous, un exemple d'une programmation que vous trouvez intéressante et emblématique de l'action des cafés culture sur un ou des artistes émergents ?
En électro, là, il y a Rubinsteiner et en rock, il y a La Poison.
Et ça se passe où ?
La Poison, c'est dans deux lieux, c'est au Rouge Mécanique et au Zigo Bar. Rubinsteiner, c'est à Magma.
Donc la nouvelle Food Hall sur l'île de Nantes. Merci Chloé Le Bailly.
Au revoir.
Le monde va mal, 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 l'économie, la pandémie, l'homophobie, les sans-abri, les dépressions, la récession, l'écologie, le tsunami, le monde va mal. La politique, la robotique, les fanatiques, l'Antarctique, la liberté, les réfugiés. Les dictatures, la non-culture, le nucléaire, l'ours polaire, crédit social, délit facial, les idées, la libido, les pronostics, tout pour le fric, le monde.
Le monde va mal.
Cette émission est maintenant terminée. À suivre dans un instant, Pensée locale, 5 minutes de reportage proposé par la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Tout de suite après, ce sera Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie
économie sociale et solidaire en Pays Nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Diplômée de Sciences Po Bordeaux, titulaire d'un Master 2 Métier du Livre et de l'Édition et d'un Master de Lettres, Carole Poujade a décidé de créer sa propre maison d'édition.
Je m'appelle Carole Poujade, j'habite à La Roche-sur-Yon et donc j'ai créé Inspire 85 et Inspire Édition il y a quelques années pour accompagner les particuliers, les personnes pour la création de beaux livres, ce qu'on appelle des livres-objets. Je peux accompagner un artiste peintre ou une femme qui écrit, par exemple, des poèmes, des enseignants de lettres qui ont envie de faire écrire leurs élèves. Et quoi de mieux qu'un livre pour associer les différents écrits qui sont nés sur une thématique particulière et d'en faire un beau livre souvenir pour l'établissement, pour les élèves qui, quelquefois, n'osent pas écrire ou redoutent l'écriture. Ça peut être aussi des albums pour enfants, le récit d'une personne qui est partie faire de l'humanitaire et qui raconte son témoignage. Donc c'est vraiment très très varié. Donc à chaque fois le livre va être différent et moi, l'atout que j'ai, je pense, ou ce que je propose en tous les cas, c'est de donner à ces gens-là qui ont écrit ou qui veulent écrire ou qui dessinent, c'est de leur donner une opportunité d'avoir du bel ouvrage, d'avoir un accompagnement par un professionnel qui va interagir avec eux, parce que moi je rencontre les personnes, on échange. C'est vraiment la co-construction de projets. Et donc je suis faite de chair et d'os, et je ne suis pas une plateforme sur Internet, quoi. Vous voyez, donc il y a des gens qui vont aussi sur Internet, qui envoient leur manuscrit. Enfin, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts, il y a plein de solutions. Moi, ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement individuel, à la carte, pour des livres sur mesure, des livres qui vous ressemblent. J'accompagne des personnes, notamment dans la réalisation de livres mémoires de vie, récits de vie. Donc, ce sont des personnes qui soit ont écrit, et donc je les accompagne pour relire, corriger, mettre en page leurs souvenirs. Soit c'est des personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour l'écriture. Donc il y a vraiment tous les cas de figure. On trouve aussi des personnes qui ont découvert dans des tiroirs, des carnets de leurs parents, de leurs grands-parents, un cahier de recettes, par exemple, de recettes de cuisine. Donc c'est dommage que ces écrits-là, ces cahiers, ces carnets restent oubliés. Donc mon rôle, c'est de les faire revivre en quelque sorte. Et donc je récupère cette matière, on rajoute des photos et on travaille avec la personne jusqu'à la réalisation de ce livre qui souvent va rester dans les familles ou pas. Parce qu'on peut avoir des livres, des histoires individuelles qui intéressent beaucoup et de plus en plus les amis, les proches et d'autres personnes qui habitent en local ou plus ou moins loin.
Pensée locale, un enjeu de société.
Vraiment, sur des livres mémoires, j'ai été surprise de l'accueil réservé par le public à certains livres qui étaient censés être des histoires vraiment individuelles, avec un arbre généalogique, avec une présentation de la famille, des enfants. Mais en fait, quand on parle, alors je pense à un monsieur qui est dans le sud Vendée, quand on parle de la cuisine du cochon, de la foire aux alouettes, de la vie des pompiers, de l'harmonie municipale, du puits du village ou de la commune, forcément, ça résonne dans les mémoires des gens qui ont connu ou qui connaissent un peu de cette vie en campagne, d'autrefois. Et ces histoires individuelles qui sont racontées pour être a priori des livres de famille acquièrent une toute autre dimension et deviennent des aventures collectives. dans laquelle les gens se retrouvent, reconnaissent leur vie d'autrefois. La mémoire individuelle touche à la mémoire collective, parce que les personnes ont connu l'évolution des modes de vie, le travail à la campagne, la façon dont la femme a évolué aussi. Donc il y a plein de choses que les gens vont retrouver dans cette histoire individuelle et qu'ils vont partager.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Gwenaëlle Nicolas pour Graffiti Urban Radio.